Allez, 8h54, on prend la route de la musique. Notre guide, bien sûr, c'est André Manoukian ce matin, ce sacré Charlemagne.
Aujourd'hui, on va parler du chanteur Grégoire. Enfin, le vieux Grégoire, celui qui a donné son nom au chant grégorien. Même si le chant grégorien n'a rien à voir avec le vieux Grégoire. Comment transformer le multiple en un? Comment faire vibrer une foule comme un seul homme? Comment réussir une révolution? Mettre au pas des soldats? Faire marcher des bataillons joyeusement sous la mitraille? Comment animer des centaines de corps avec une seule âme? En chantant. Quand Charlemagne conquiert les territoires avoisinant les provinces dont il a hérité, il sent que la reconstitution de l'Empire romain d'Occident est à sa portée en ce 9e siècle. Il comprend vite que la culture peut unifier les peuples d'Europe. Il adopte le latin comme langue internationale. Et enfin, si ces peuples, à l'exception des Saxons à l'Est, sont tous de religion chrétienne, il serait peut-être temps qu'ils chantent les mêmes airs dans les églises. Alors il va se mêler lui-même de la playlist sacerdotale. Le chant grégorien est d'une importance capitale, car il est à l'origine de toute la musique occidentale. On l'appelle grégorien parce qu'il est attribué à Saint Grégoire, un père de l'Église élu pape en 590. Les canons de la musique grégorienne évoluent au cours des siècles. Et c'est au 9e siècle que Charlemagne décide de les fixer. Parce que jusque-là, on ne chantait pas la même chose dans les églises selon qu'on était en Italie du Nord, selon qu'on était en Gaule, selon qu'on était en Espagne. Mais à l'origine, c'est d'Orient que venaient tous ces chants que l'Église catholique romaine va adopter. Les premiers chrétiens étaient juifs. Ils chantaient les chants des synagogues, des chants monodiques à une seule voix, a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement instrumental. Ces mêmes chants vont servir désormais le culte catholique, mais on va les dépouiller de tout ce qui fait trop oriental. Petit à petit, on enlève les mélismes, les variations sur une syllabe. On s'arrange pour que la gamme ne soit pas soumise à des demi-tons générateurs de troubles. Et surtout, on retire les ornementations trop sensuelles. Ainsi, la musique occidentale, du moins dans sa codification, naît d'une musique orientale édulcorée, simplifiée, plus austère, en réponse aux vœux des platoniciens qui craignent le charme qui ramollit les hommes. Dans le culte hébreu, on demande aux chantres d'improviser sur les écritures saintes. Au contraire, dans la liturgie catholique, on évacue toute improvisation, toute émotion, celle-ci ne pouvant qu'éloigner de Dieu. Une seule voix, le moins de variations possible sur les voyelles, une octave maximum entre la note la plus basse et la note la plus aiguë, peu d'intervalle entre deux notes, ni mélisme, ni demi-ton. Bon, c'était pas la fête. Cependant, c'est sur ces règles strictes et dépouillées qu'on va rebâtir un système harmonique qui va s'enrichir au fil des siècles jusqu'au chef-d'œuvre de Jean-Sébastien Bach. En attendant, on essaie de canaliser l'énergie musicale vers Dieu. C'est un moine qui invente la portée au XIe siècle, un autre qui va nommer les notes par l'acrostiche d'un cantique dédié à Saint Jean. Ut quaeantlaxis. Ré zonare fibris. Mira gestorum. Fa mulituorum. Sol quet polluti. La bi reatum. Sancte Ioannes. Ut ré mi fa sol la si. un cantique qui signifie « Pour que tes serviteurs puissent chanter à pleine voix les merveilles de ta vie, efface le péché qui souille leurs lèvres, bienheureux gens. » Autrement dit, un conseil hygiénique, lave-toi les dents avant de chanter.
Voilà, on se lavera les dents avant de chanter. C'est bien noté sur les routes de la musique. Merci Dédé, André Manoukian.